Bonjour à tous et à toutes. Des Brésiliens parmi nous? Toujours, hein? Ouais, c'est bien. C'est bien. Donc, je me sens un peu plus à la maison. Non, je rigole. Mon accent, ça cache pas que... Même si on m'a déjà demandé si j'étais suisse-allemand, je n'ai jamais rien compris. Mais bon, deux fois, on m'a demandé si j'étais suisse-allemand. Donc voilà, depuis 10 ans ici en Suisse, mon épouse est suissesse, et puis souvent elle se plaint que je suis devenu trop suisse. Pour moi, c'est une critique, parce que depuis 10 ans, j'essaie de m'adapter dans la culture, dans la vie, et puis après on me dit que je suis devenu trop suisse. Il faut que je revienne un petit peu côté brésilien. Donc, merci Luc pour cette invitation. Vous savez, nous vivons dans une société qui est dans le changement. Nous vivons dans une société qui est dans l'incertitude. C'est une société qui cherche ses repères, qui cherche ses marques, qui cherche une spiritualité, qui cherche ses dieux au pluriel, c'est-à-dire l'argent, le bonheur à tout prix, l'accomplissement de ses rêves, l'accomplissement de ses rêves égoïstes. Ce sont des gens qui ont tout, c'est-à-dire ont une bonne santé, ont de l'argent, un mariage solide, mais qui vivent une vie comme s'ils n'avaient rien. Ils se sentent vides, vidés de sens. Tandis qu'il y en a d'autres qui n'ont rien, en tout cas rien de... matériel, rien de choses terrestres, mais qui ont tout parce qu'ils ont découvert la vraie valeur de leur existence. Et c'est en réfléchissant justement à tout cela que j'ai choisi de vous parler de l'un de mes personnages préférés de la Bible. J'ai choisi de vous parler d'Abraham. Abraham. Et j'aimerais lire en tout cas la première partie de cette lecture. C'est Genèse, le chapitre 11, 27, qui va nous dire, qui va nous présenter Abraham, en tout cas nous présenter sa famille. Le texte dit Abraham, qu'Abraham il est fils de Terah, donc jusque-là pas beaucoup d'informations. Hein. Il est marié avec une femme appelée Sarah, ça je pense que la plupart parmi vous, vous connaissez, et il habite à Haran. Ok, amen, profond, hein, ça vous parle. Il habite à Haran. Et puis Abraham, le texte dit qu'il a deux frères, Nahor et Haran. Je pense qu'il était le syndic du village. Haran, il a le même nom du village. Et puis la Bible dit qu'Haran est mort. Haran, il est mort. Et puis Abraham, il adopte son neveu, qui s'appelait Lot. Donc Abraham, il adopte Lot, son neveu, parce que le texte va nous dire que Sarah, elle était stérile. C'est-à-dire, Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Et donc, quand son frère est décédé, Lot devient presque un fils pour Abraham. Lot devient, il prend la place dans le cœur d'Abraham comme un fils. C'est son fils adoptif. Donc, les amis, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, nickel. Pas de souci. Mais un jour, tout a changé. Un jour, Dieu, il se révèle à Abraham. Et cette rencontre-là, elle nous est racontée au chapitre 12 du livre de la Genèse. Tout à coup, Dieu, il vient et il dit, « Abraham, va, quitte ton pays, quitte ta famille, et la maison de ton père pour rendre dans les pays que je t'indiquerai. » Alors Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Il part. Il quitte sa maison, il quitte sa parenté, il quitte son confort, il quitte ses affaires. Et puis il rentre dans une sorte de vulnérabilité. Pourquoi? Parce que maintenant, Abraham, il est en route vers un endroit que lui-même n'en a aucune idée. Mais il marche avec Dieu. Et en plus de marcher avec Dieu, il marche dans les promesses que Dieu lui a faites. Donc ça veut dire que le sol, le terrain dans lequel Abraham est en train de marcher, c'est un sol, c'est un terrain basé sur les promesses de Dieu. Mais alors, quelles promesses de Dieu ? La première promesse que Dieu a promis à Abraham, c'est qu'Abraham serait père. Il serait un papa. Mais pas seulement un papa comme nous, hein. Il serait un père d'une grande nation. Et puis je pense qu'à ce moment-là, il a dû penser, bah, alors Dieu, il va me donner une autre épouse, parce que Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Ça, c'est la première promesse. Et la deuxième promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est qu'Abraham serait un homme riche et béni. Mais tellement béni qu'il serait source de bénédictions pour toute la terre. Ces bénédictions se répandraient sur toute la terre, sur toutes les familles de la terre. Abraham serait célèbre. Ça, c'est la deuxième promesse. La troisième promesse, c'est que Dieu a promis à Abraham qu'il le protégerait partout. Dieu dit à Abraham, « Je bénirai ceux que te béniront et je maudirai ceux que te maudiront. » Donc, Abraham, il est confiant dans les promesses de Dieu. C'est pourquoi il part. C'est pourquoi il part vers l'inconnu. Donc, cette vie paisible, normale, tranquille, hamac, jardin, etc., n'existait plus. Tout a changé. Tout a changé. Il est allé d'une extrémité à l'autre. On pourrait dire que Dieu a mis sa vie à l'envers. Et puis, j'imagine que c'était super difficile. En tant qu'étranger, je comprends que c'est difficile d'être dans une autre culture, loin de sa famille, loin de ses amis. Alors, imagine-toi dans cette situation. Toi, tu dois quitter tout, aller vers un endroit que tu ne connais absolument pas. Oui, bien sûr, basé sur des promesses. Oui, c'est vrai. Mais des promesses, on est d'accord, des promesses utopiques. D'un point de vue humain. Pour certains, cela n'est pas une bénédiction, mais plutôt c'est une vallée de l'ombre de la mort. Mais Abraham, il accepte le défi. Défi accepté. Abraham, il est fidèle à Dieu. Tout ce qu'Abraham dit, c'est « Oui, Seigneur, merci, Seigneur, me voici, Seigneur. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, me voici, Seigneur. » Alors Dieu, il commence à se révéler à Abraham. Dieu commence à le remplir de rêves, de projets, d'expectatives, d'espoirs, de visions. Et effectivement, vous savez, Abraham, il est béni par Dieu. Il est hyper béni par Dieu. Et tellement béni qu'à un moment donné, il doit se séparer de son neveu Lot. Parce qu'ils avaient tellement de biens, tellement d'animaux, tellement de richesses qu'il n'y avait plus d'espace pour que deux familles puissent vivre ensemble. Alors Abraham, hein, qui aimait bien Lot, il est allé discuter avec lui. Et puis il lui dit, « Lot, tu sais que tonton, il t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on se sépare là, parce qu'il n'y a plus de place pour nous deux sur cette terre. Alors Lot, ce que tu vas faire, c'est tu vas monter sur cette montagne ici, d'accord? Et puis tu vas choisir n'importe quelle région pour y habiter. Et puis Lot, il est allé, il est monté sur la montagne. Et puis Lot, qui n'était pas bête, hein, il a remarqué, les amis, que d'un côté, la terre, elle était verte, avec des magnifiques pâturages. Des arbres, des rivières, imaginez ça, un oasis, quelque chose de merveilleux. Et puis de l'autre côté, c'était que du désert, que du désert. Alors Lot, qui n'était pas bête, il est allé venir vers Abraham, et puis il dit, « Tonton, Dieu a mis dans mon cœur que je devrais aller vers ce côté-là où tout est vert. Puis Abraham, il dit, OK. Il était d'accord avec sa décision. Et puis Abraham, il regardait Dieu et il dit, Seigneur, il ne me reste que le désert là. Et puis Dieu, il vient et dit, mais Abraham, ce désert, il va fleurir. Et tu seras tellement riche dans ce désert que tu ne vas même pas y croire. Et puis Abraham répond, il dit, oui Seigneur, merci Seigneur, me voici Seigneur, c'est parti pour le désert. Et effectivement, vous savez, Abraham, il prospère dans le désert. Dans le désert, Dieu lui dit, Abraham, je n'ai pas encore oublié cette promesse que je t'ai faite. Hein. Tu seras père, tu seras papa. Et puis Abraham dit, oui Seigneur, mais c'est juste que cela fait déjà quelques années hein, que tu as promis ça. Je dis rien, je dis ça, mais je dis rien. Hein. Si jamais tu as oublié, ça fait déjà quelques années. Parce que vous savez, quand Dieu il a fait cette promesse, qu'Abraham il serait père et père d'une grande nation, Abraham il avait 75 ans. 75 ans. Et le moment où Abraham il a eu son fils, qu'il appela Isaac, il avait 100 ans. Okay? Donc, ce sont 25 ans écoulés lorsque Dieu finalement décida de se souvenir de sa promesse. Dieu dit à Abraham, je n'ai pas encore oublié, hein? Je n'ai pas encore oublié la promesse. Et puis il dit, oui, d'accord Seigneur, amen, mais est-ce que tu as déjà remarqué mon état? Est-ce que tu as déjà remarqué Sarah? Parce qu'elle a presque 100 ans là. Cela ne coûte rien de te rappeler, hein, si jamais on est. Mais les amis, presque 25 ans après, Sarah, elle était frustrée. Elle était impatiente. Elle était devenue âgée, bien sûr. Alors elle appelle son mari et puis elle dit, Abraham, voilà, ça ne joue plus quoi. Ça ne joue plus, donc... Voici mon esclave, Agar. Tu peux avoir un enfant avec elle. À cette époque-là, c'était autorisé. Hein? À cette époque-là. Une fois, je faisais une étude avec les jeunes de l'église, et puis on a touché ces textes-là. Puis j'ai dû répéter plusieurs fois, à cette époque-là. Parce que c'était une habitude de l'époque. Dans ce genre de société patriarcale, les femmes n'étaient que de simples instruments de reproduction. Alors Abraham, il prit un raccourci. Il eut un fils avec son esclave, Agar, et il appela le fils de Ismaël. Et puis, Ismaël est né, et puis Abraham dit, Seigneur, regarde! Seigneur, regarde Ismaël, Seigneur, j'ai trouvé une combine pour ta promesse. Voilà, il est là, Seigneur, regarde comme il est beau. Seigneur, la descendance, elle est garantie. Et puis Dieu, il vient et dit, ce n'est pas Ismaël, ce n'est pas avec Agar. Tu vas avoir un fils avec Sarah. Et puis Abraham, il était là, mais Seigneur, tu rigoles ou quoi? Parce que... Et puis 25 ans passent et Isaac est né. Dieu, il s'occupe d'Agar, Dieu, il s'occupe d'Ismaël, Dieu, il fait plusieurs promesses à Ismaël, des promesses qui s'accomplissent au long de l'histoire. Mais le fils promis, c'est Isaac, et non pas Ismaël. Parce que c'est à travers Isaac que Dieu il va multiplier la descendance d'Abraham et faire une grande nation. Donc Isaac, il est la clé pour toutes les autres promesses. C'est Isaac. Et au moment de la naissance d'Isaac, c'est le jour le plus joyeux d'Abraham et de Sarah. Imaginez ce moment-là. 25 ans en train d'attendre une promesse. Vous avez déjà plus de 100 ans. Isaac est né, le fils de la promesse est né. C'est le jour le plus joyeux de leur vie, quoi. Jusqu'au jour où Dieu vient et dit, « Abraham, me voici, Seigneur, oui, Seigneur, merci, Seigneur. D'ailleurs, Seigneur, tu as vu que c'est beau, ce garçon que tu nous as donné. » Et puis Dieu dit, « Alors, justement, il faut qu'on en parle. Parce que j'ai besoin que tu fasses une chose. Oui, Seigneur, me voici, Seigneur. Tu peux parler. Je veux que tu sacrifies ton fils. Vous imaginez le silence après cette discussion? À ce moment-là, Abraham, il entre dans une sorte de vallée de l'ombre de la mort. Il est dans une situation où il n'y a que deux options devant lui. Perdre ou perdre. Soit il tue son fils Isaac, et tous les rêves de devenir une grande nation et de bénir toutes les familles de la terre meurent aussi avec Isaac. Ou il préserve la vie de son fils et se sépare et abandonne Dieu qui est la source de son espoir, le sponsor de ses rêves et le Dieu des promesses. À ce moment-là, Abraham, il pense, le rêve est fini. Le rêve est terminé. Et à ce moment-là, s'installe dans la vie d'Abraham un état émotionnel terrible. C'est perdre ou perdre. Il se vide de tout espoir et espérance. Mais vous savez, Abraham, il aurait pu se tourner vers Dieu et dire, quoi? C'est quoi, Seigneur? Seigneur, j'étais à Haran, marié avec Sarah, j'étais chez moi, chez ma famille, avec ma famille, j'avais mon neveu Lot qui était pour moi comme un fils. J'étais tranquille, et puis tout à coup, tu apparais dans ma vie, tu me demandes de quitter ma maison, de quitter ma culture, tu mets ma vie à l'envers, sans avoir au moins demandé si j'en voulais. Et puis tu viens avec cette histoire-là que je serai père et père d'une grande nation, et puis tu commences à me bénir, tu commences à me bénir, et tu me promets un fils. Et tu me donnes un fils, et tu remplis mon cœur d'espoir, de rêves, et maintenant, toi, Seigneur, tu me demandes de sacrifier mon fils. Mais c'est quoi comme histoire? Tu rigoles? Il aurait pu dire cela, Dieu. Si j'étais moi, je crois que j'aurais fait. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Abraham, quitte ta maison et ta famille. Oui, Seigneur. Maintenant, tu t'arrêtes là. Oui, Seigneur. Il faut se séparer de ton neveu. Oui, Seigneur. Laisse-lui la terre verdoyante et pars dans les déserts. Oui, Seigneur. Maintenant, tu vas avoir un fils. Oui, Seigneur. Mais ce n'est pas celui-là, c'est avec Sarah. Oui, Seigneur. Et ça va prendre du temps. Oui, Seigneur. Maintenant, il est né. Prends soin de lui. Oui, Seigneur. Maintenant, sacrifie-le. Oui, Seigneur. C'est Abraham. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est « Oui, Seigneur, me voici, Seigneur. » Et puis Abraham, il amène Isaac pour le sacrifier tout seul, sans dire un mot. Il ne se justifie pas. Imaginez la discussion hein, à la maison avec Sarah. Mon amour, je vais sortir avec Isaac pendant 2-3 jours. Et puis Sarah dit, ah bon, vous allez où? On va sur une montagne là. Ah bon, une montagne? Ok, pour faire quoi? Prier? Un petit temps papa, fils? Une retraite spirituelle? Plus ou moins, je vais aller sacrifier Isaac et je reviens, d'accord? Vous imaginez, le... qu'aurait-elle dit là? T'es devenu fou, Abraham. T'es devenu malade. Et vous savez, je trouve intéressant que lorsque Dieu il demande Isaac à Abraham, la Bible, elle dit que Dieu est en train de mettre Abraham à l'épreuve. Et Abraham, il réussit le test. Il passe l'examen. Parce qu'au moment, au moment donné où Abraham il a le couteau pointé, prêt pour sacrifier son fils, Dieu lui dit, Abraham, tu n'as pas besoin. Tu as réussi le test. Et puis il est là, mais il n'a pas compris c'est quoi comme test. Et puis il dit, le test d'être fidèle à Dieu dans toutes les circonstances. Le test d'aimer Dieu quand tout va bien ou quand tout va mal. Et tu l'as réussi. Mais bon, fin de l'histoire. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous raconter tout cela et en fait, où est-ce que je vais en venir ce matin? Vous savez, Abraham, il aurait pu dire à Dieu, « Seigneur, demande-moi quoi que ce soit, sauf Isaac. Demande-moi quoi que ce soit, sauf Isaac. » Et Dieu leur a dit, alors justement, Abraham, c'est pourquoi il faut que ça soit Isaac. Parce que quand tu me dis quoi que ce soit, sauf Isaac, c'est parce qu'Isaac, il est tout pour toi. C'est plus ou moins comme si Dieu lui me disait, Léo, asseye-toi ici, mon fils. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Oui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Alors, tu sais que tu es mon fils bien-aimé. Hein, Léo, c'est bon? Oui, Seigneur, c'est bon, ça, j'ai tout compris. Et Léo, tu sais, hein, j'entends tes prières et tu me dis que ton espérance est en moi. Tu me dis que tu veux entendre ma voix, que tu veux être mon instrument. C'est ça tes prières, oui Seigneur, ça c'est mes prières, c'est tout ce que je veux, je vis pour toi, et je veux que tu conduises ma vie, c'est vrai Seigneur, c'est tout vrai. Et puis Dieu, il me dirait, Léo, ok, alors laisse-moi te poser une question. Mon fils, vas-tu continuer à m'aimer et à vivre pour moi, même si rien de cela n'arrive? Et puis j'ai dit, je n'ai pas compris la question, Seigneur, tu peux répéter? Il Il dit, oui, mon fils, si tu attends de moi l'accomplissement de tes rêves, si tu attends de moi la concrétisation de tes projets, alors oublie. D'ailleurs, mon fils, les choses ne vont qu'aller de pire en pire. Alors, est-ce que tu vas continuer de m'aimer et de me servir? Mon fils, est-ce que je peux donner et reprendre? Ou est-ce que tu me veux seulement comme sponsor de tes rêves et de tes projets? Et puis je répondrai, Seigneur, est-ce que tu as besoin d'une réponse tout de suite là? Est-ce que je peux prier d'abord? La réponse que Dieu aimerait entendre, c'est oui, Seigneur, tu peux toutes choses. Oui, Seigneur, tu peux entrer quand tu veux, prendre ce que tu veux. C'est plus ou moins Dieu en train de parler avec l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Paul, est-ce que je peux te laisser faire un naufrage, être lapidé, dormir dans la prison, être exposé à la faim, à la soif, à la nudité, au froid? Est-ce que je peux compter sur toi, Paul? Oui, Seigneur, tu peux. C'est Dieu en train de discuter, en train de parler à son fils Jésus. Mon fils, est-ce que je peux compter sur toi pour racheter l'humanité? Oui, Seigneur, tu peux. Est-ce que tu es d'accord d'y aller là pour faire ma volonté? Oui, Seigneur, je peux. Est-ce que je peux te faire marcher sur les eaux, chasser des démons, transformer l'eau en vin, guérir les lépreux, ressusciter les morts? Est-ce que je peux compter sur toi? Oui, Seigneur, je peux. Et est-ce que je peux aussi laisser qu'on te crache sur le visage, qu'on te donne des coups de fouet, te met une couronne d'épines sur la tête et te laisse mourir sur une croix? Oui, Seigneur, tu peux. Tu peux toutes choses. Et c'est à ce moment-là, les amis, que nous comprenons ce que signifie aimer Dieu au-dessus de toutes choses, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Mon fils, ma fille, le jour où tout ira mal, que tu seras dans l'obscurité, tout seul, est-ce que je peux compter sur toi ou est-ce que tu seras là dans ton coin vexé, en train de me dire et de plaindre, oui, mais pourquoi Dieu a fait ceci avec moi? Non, est-ce que tu vas m'abandonner et te plaindre? Si j'enlève ton Isaac, est-ce que je peux continuer à compter sur toi ou pas? Mais vous savez, le problème, c'est que nous sommes accros dans un système religieux qui est bâti dans une logique que Dieu doit fonctionner comme ci et comme ça. Dieu doit faire ceci et faire cela. Dieu, il va ouvrir la mer. Dieu, il va guérir tout le monde. Dieu, il va faire prospérer. Et pas que cela ne soit pas vrai, d'accord? Mais nous entrons dans une ambiance émotionnelle dans laquelle tout ce que nous amenons à Dieu, ce sont des expectatives que Dieu doit fonctionner comme ci et que Dieu doit fonctionner comme ça dans nos vies. Et le minimum de frustration suffit pour nous déstabiliser complètement. Les choses, c'est comme si les choses ne peuvent pas aller mal dans la vie de celui qui marche avec Dieu. Et si quelque chose va mal dans notre vie, si tes parents se sont divorcés, si quelqu'un de ta famille est tombé malade, si tu n'as pas réussi l'école, bref, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit avec moi, soit avec Dieu. Parce que si j'étais en train de tout faire juste, et si Dieu était en train de faire tout ce qu'il a promis, cela ne serait pas en train d'arriver. Donc, nous construisons une spiritualité dans laquelle Dieu, il devient prisonnier de nos prières, de nos expectatives, de nos rêves et de nos désirs. La Bible, elle dit, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » La Bible ne dit pas « Fais des désirs de ton cœur tes délices et embête Dieu pour qu'il te donne ce que tu veux. » Ce n'est pas ça. La Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices. » Autrement dit, et si vous voulez noter ça, souligner ça, ou garder rien que ça pendant de tout le message, autrement dit, ne vis pas en fonction de l'Isaac que Dieu t'a donné. Vis en fonction du Dieu qui te donne Isaac. Amen. Amen. Ne vis pas en fonction de l'Isaac que Dieu t'a donné. Vis en fonction du Dieu qui te donne Isaac. Et ça, c'est différent. Vous savez pourquoi? Parce que si tu vis en fonction du Dieu qui te donne Isaac, même quand il n'est pas Isaac, il est Dieu. Mais si tu vis en fonction d'Isaac ou de n'importe quoi qui vient à ta tête, dans ta tête, si tu vis en fonction de l'Isaac, dans les manquements d'Isaac, tu te tournes contre Dieu. Vous savez, j'imagine que si Dieu il arrivait dans nos églises, et puis il disait, les amis, à partir d'aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse dans toutes les églises en Suisse romande. Et je vais rester 25 ans sans bénir personne. Ferme parenthèse, vous pouvez continuer le culte. Je ne sais pas combien de personnes continueraient à fréquenter nos cultes les dimanches suivants. Est-ce que moi, je continuerais? Et vous savez, la grande ironie et les grands paradoxes derrière tout cela, c'est qu'il me semble que le lendemain, où Dieu il a dit, je vais rester 25 ans sans bénir personne. Le lendemain, il y a une douzaine de personnes qui apparaissent. Et là, les amis, le jeu commence vraiment. Parce que cette douzaine de personnes va commencer à écouter la voix de Dieu, le secret de Dieu, de jouir de l'intimité avec Dieu et de voir la face de Dieu. Parce que voilà ceux qui font de l'Éternel leur délice et non pas les désirs de leur cœur. Et là, les amis, le jeu commence vraiment. C'est une rencontre d'une douzaine d'Abraham. C'est une rencontre d'une douzaine de Paul. En étant lapidé, craché, mais en chantant des louanges à Dieu dans la prison. Vous savez, ce message-là, il est né dans mon cœur. Il y a 7 ans. Il est né dans mon cœur, il y a 7 ans. Mais cela m'a pris 5 ans pour commencer à mettre sur papier. Parce que vous savez, au fond de moi, au fond, tout au fond, je me demandais, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Ou est-ce que je l'apprécie seulement? Tu sais, je l'apprécie quand il me bénit, quand il m'utilise pour bénir d'autres personnes, quand il me donne sa paix. Et le jour où ce message est né dans mon cœur, c'est le jour où mon fils, il est presque décédé à cause d'une allergie alimentaire. Et puis moi, j'étais là en route à l'hôpital, aux urgences, en train de pleurer, en train de prier dans ma voiture. Et puis moi, j'ai cette habitude d'écouter toujours des prédications hein, quand je conduis. Et pendant que j'allais à l'hôpital, par hasard, le message que j'écoutais était justement au sujet d'Abraham et Isaac. Et ma prière, je me souviens, ce jour-là, en larmes, c'était « Seigneur, je ne sais pas si je serai prêt, si j'arriverai à te dire « Tu as donné et tu as repris, béni sois-tu. » Et aujourd'hui, je ne sais toujours pas si je serai prêt. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'indépendamment que je sois prêt ou pas, l'amour de Dieu envers moi ne changera pas. Indépendamment que je sois prêt ou pas, la faveur de Dieu pour moi et pour toi ne changera pas. Je suis conscient de mes imperfections et Dieu en est aussi conscient. Et Dieu, il sait que le désir le plus profond de mon cœur, et j'espère que cela soit aussi le désir de ton cœur, c'est que je ne veux pas rester là en train de jouer à la religion ou d'avoir une religion confortable qui utilise Dieu comme un simple instrument, qui utilise Dieu comme un simple levier, facilitateur, sponsor de mes désirs égoïstes et égocentriques. Je veux que ma relation avec Dieu soit tout, même si je n'ai rien d'autre. Et toi? Et pour toi? Et j'aimerais inviter les groupes de louanges à venir. Vous savez, je ne sais pas quels sont les chemins que Dieu nous amènera pour nous rendre sensibles à sa voix et à sa présence. Je ne sais pas combien de distractions il devra enlever de nos vies afin que nous ayons une expérience profonde et véritable avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais t'encourager, vous encourager à réévaluer votre relation avec Dieu. J'aimerais vous inviter à réévaluer votre relation avec lui. Parce que j'ai cette profonde conviction que Dieu, il veut t'aider à surmonter cette crise de foi que tu vis actuellement, peut-être pour certains. Et Dieu, il veut guérir les blessures qui se sont accumulées dans votre cœur. Donc, frères et sœurs, ce matin, c'est un rendez-vous divin que j'aimerais que vous ayez tous. Et pendant que nous allons chanter, j'aimerais t'encourager à te mettre devant Dieu comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Si vous voulez vous mettre à genoux, faites-le. Si vous voulez vous lever, adorer le Seigneur, faites-le aussi. Mais ce matin, les amis, j'aimerais que vous puissiez avoir une vraie rencontre avec Dieu et à réévaluer votre relation avec Dieu. À réévaluer vos priorités, à réévaluer tout cela. Amen. N'hésitez pas à dire à Dieu tes frustrations. N'hésitez pas à déchirer ton cœur devant lui. N'hésitez pas. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, toi seul, tu connais comment ce message a touché le cœur de chacun et chacune ici. Donc, Seigneur, viens et continue d'agir. Viens, Seigneur, et continue de restaurer. Viens, Seigneur, et continue de nous bénir, de toucher, de nous visiter, de nous guérir. Seigneur, viens, continue. Saint-Esprit, souffle là où tu veux. Notre foi. Viens écouter le cri de notre cœur. Visite, Saint-Esprit, visite. Prends ta place. Prends ta place dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Pour la gloire de ton nom et pour notre bien.